France Musique.
En quoi, 6 ans, ils se sont imposés comme l'un des nouveaux grands quatuors à cordes, mais pas seulement en France, non, pas seulement en Europe, dans le monde entier, notamment en Amérique du Nord. Bonjour Samir Rachid, violoncelliste du quatuor Harrod. Bonjour Alexandre Vu, second violon.
Bonjour.
Votre nouvel album, deuxième disque après Mendelssohn, s'intitule The Matilda Album. Il nous emmène à Vienne, au début du XXe siècle, un peu avant le dodécaphonisme. C'est un programme très ambitieux, un disque somptueux.
Merci.
Votre maison de disques, Erato, appartient à ce qu'on appelle un major, Warner. C'est facile pour un deuxième disque d'enregistrer en 2019 Schönberg, Webern et Zemlinski, ou bien il a fallu un peu lutter?
Je pense que c'est toujours un peu rebutant, que ce soit pour nos agents, les programmateurs de concerts et même les maisons de disques. Enfin, ça fait peur quand on parle de Schönberg, parce que forcément, les gens ont un peu un a priori, comme vous dites, ça peut rebuter un peu, parce qu'il y a toute cette image de musique compliquée dont on ne comprend rien. Et en fait, il y a tout un monde qui s'ouvre. Et bon, là encore, on a ce disque tourne autour de la période plus accessible, disons. On n'est pas encore, comme vous disiez, dans le dodécaphonisme. Ça parle beaucoup plus aux gens et c'est un programme somptueux et personne n'a regretté de nous avoir suivis dans ce projet, car ça a été un long projet, 3 ans de préparation pour convaincre tout le monde, nous-mêmes le préparer, l'aboutir. Et maintenant, on tourne avec, donc ça a vraiment été 3 ans de notre vie assez intense autour de ce projet.
Et le public, il a peur quand vous jouez Webern, Zemlinski, Schönberg? Alexandre,
sur papier plutôt, mais on a toujours eu des retours très positifs. Après, surtout, notamment en concert en fait, en live, parce que je pense que le fait de vivre ce programme en live, c'est complètement différent, bien sûr,
oui.
Parce qu'il y a toute l'histoire autour, il y a tout aussi l'émotion du concert aussi, et pour l'instant, justement, il y a énormément de gens qui nous ont dit, malgré le fait sur papier que Schönberg et Zemlinski notamment, leur fasse un peu peur au début, mais finalement ils ont vécu vraiment quelque chose de très fort en sortant du concert, donc c'est le but, donc on est très heureux.
Il y a le concert, mais il y a aussi le disque, il y a aussi le disque qui passe à la radio, c'est somptueux, c'est une musique qui a quand même plus d'un siècle, voici le début de ce Langsamer Satz d'Anton Webern.
Thank you.
N'ayez pas peur, d'Anton Webern, le début du Langsamer Satz par le Quatuor à Rod, extrait de ce disque qui vient de paraître chez Erato, de Mathilde Album. Samy Rachid, violoncelliste, Alexandre Vu, second violon du Quatuor, nos invités ce matin. C'est quoi cette musique-là, pour les gens qui se demanderaient, qui pensaient à entendre un Webern qui n'est pas du tout le Webern qu'ils entendent?
Bah, c'est un Webern amoureux, avant tout. Parce que certes, ce disque tourne autour d'un drame, mais il tourne surtout autour de plusieurs histoires d'amour. Anton Webern, qui au moment où il compose ce Langsamer Satz, tombe follement amoureux de celle qui deviendra sa femme. Mathilde, qui est donc la femme de Schoenberg, tombe amoureux du prof de peinture de Schoenberg. Enfin, voilà, c'est un peu plus au-delà de l'histoire de cette femme, c'est surtout comment les compositeurs tombent complètement dans leur musique quand ils sont amoureux et nous sortent des pages aussi sublimes que ce Langsamer Satz.
Alors on va expliquer de Mathilde Album, c'est peut-être pour pas faire peur justement, on dirait un titre, on va trouver des petits bonbons. C'est qui cette Mathilde? Qui veut nous raconter
l'histoire? Eh bien Mathilde, Mathilde donc née Zemlinsky, est la sœur donc d'Anton von Zemlinsky qui est le...
Alexander,
pardon, excusez-moi. Alexandre. Il est tôt, veuillez m'excuser.
Et puis vous êtes un peu en décalage horaire.
Oui, effectivement. donc Mathilde est la sœur de Zemlinsky, mariée à Schoenberg, plusieurs enfants, et tombe follement amoureuse de Gerlst, le professeur de peinture de Schoenberg, qui devient très lié avec cette famille. Il fuit Vienne pendant la nuit. Ils sont complètement chassés de la grande société viennoise. C'est un peu un feuilleton dans les journaux. Et à ce moment-là, Schoenberg est en train de composer son deuxième quatuor. Il fait une pause d'un ou deux ans. Il fait une grande pause dans sa composition où il va découvrir les poèmes de Stefan Georg et va décider de les mettre en musique avec une voix de soprano qui représente Mathilde, sa femme qui est partie, et les intègre à son deuxième quatuor. 10 ans après, nous avons Zemlinsky qui revient sur toute cette histoire, parce qu'il faut savoir que Gerlst se pend au moment où Mathilde revient dans la famille de... Oui, c'est un peu glauque, hein, et voilà. Mais ça nous laisse place à des pages absolument extraordinaires de la musique romantique, car c'est de la musique romantique, bien que Schoenberg, au moment où il écrit son deuxième quatuor, se pose des questions sur... Qu'est-ce que va devenir la musique? Vers quoi allons-nous tourner? Et il dit dans ses lettres, il survole la tonalité au moment où il écrit ce deuxième quatuor.
C'est donc les prémices. C'est,
exactement. On est vraiment à un tournant. Comme je dis souvent, c'est un peu le crépuscule du romantique, cet album. C'est le dernier suc de ce qu'est la musique romantique avant que cela passe vers d'autres cieux.
Et puis pour ajouter aussi le deuxième quatuor de Zemlinsky qu'il a composé dans une dizaine d'années après le deuxième quatuor de Schoenberg aussi. En fait, il a écrit ce quatuor pour raconter cette histoire d'histoire d'amour un tout petit peu tendue entre justement Schoenberg, sa sœur et le peintre.
Donc il y a un vrai sens dans ces trois œuvres autour de cette Mathilde qui est revenue, pour reprendre Jacques Brel, Mathilde qui est une muse, on peut dire, une égérie de ce Vienne du début du XXe siècle.
Bien sûr, c'était une femme du fait qu'elle était au cœur d'un cercle où il n'y avait pas que Schoenberg, Zemlinsky et Webern. Hein. Il y avait Berg, il y avait tous les grands compositeurs de cette époque, ils étaient tous très liés. Elle est au cœur de cette vie artistique à Vienne, comme l'a été Alma Mahler, comme l'a été Clara Schumann, comme Fanny Mendelssohn. Enfin, les femmes qui ont été au cœur du processus de composition et qui ont inspiré leurs époux, pour la plupart du temps, à composer, elle en fait partie et elle est encore aujourd'hui très méconnue.
Alors, la musique de Schoenberg, si je ne m'abuse, il y a 5 quatuors, dont un qui n'est pas numéroté, enfin 4 quatuors plus un, on peut dire. C'est une musique que vous jouez depuis le début, depuis la création du quatuor en 2013, ou c'est une musique qu'il faut petit à petit... Je sais pas, maturé, Alexandre.
En fait, c'est la première fois, tout simplement, ce deuxième quatuor qu'on a joué du Schoenberg, en fait. Et en fait, on a découvert du Schoenberg grâce à ce deuxième quatuor de Zemlinsky. Donc, en fait, tout est l'idée en fait d'enregistrer ce CD est venue vraiment du fait d'enregistrer ce deuxième quatuor de Zemlinski. Et on a découvert à la suite en fait toute cette histoire avec Mathis Zemlinski. Donc en fait on a découvert cette œuvre et c'est vrai au début on comprenait pas trop le langage tout ça, mais vraiment
vous aviez peur.
Oui, tout à fait. Donc n'ayez pas peur au début, comme vous avez dit tout à l'heure.
On avait d'énormes préjugés, hein, bien évidemment.
On avait très très peur, mais surtout pas. En fait, on a trouvé cette musique tellement sublime et peur plus dans le sens, on la comprenait pas en fait le langage encore. Donc après beaucoup d'heures de travail, ça allait beaucoup mieux et on a pu vraiment apprécier cette musique. Quand il le faut et
que nous allons apprécier maintenant à 8h41 sur France Musique, extrait de ce deuxième quatuor d'Arnold Schoenberg. Deuxième mouvement de ce deuxième quatuor à cordes, opus 10 d'Arnold Schoenberg, le quatuor à rod, extrait de l'album Mathilde album, qui paraît chez Erato. Ces trois compositeurs qui se croisent dans ce Vienne du début du XXe siècle autour de Mathilde, Schoenberg, Zemlinski et Webern. Ici, on entend ce que vous disiez, Alexandre Vu, Samir Rachid, on tourne, il y a des, comme des réminiscences de la fin du 19e, de, je sais pas, Brahms par exemple, et puis on sent que ça s'agite, qu'il est, comment il disait, au bord, autour de la tonalité.
Il survole.
Il survole, voilà, on sent le survol ici.
Oui, oui, complètement. Et puis, il y a aussi ce langage qui est le langage d'un homme désespéré, qui s'est fait quitter par sa femme. Et dans ce mouvement, justement, il met un peu toute sa colère et son. Presque son. Oui, c'est son rejet, presque son dégoût de Mathilde, qu'il est dans une sorte de déni au moment où il est dans ce deuxième mouvement, et c'est quelque chose de très presque un peu narcissique qu'on retrouve dans la manière dont il écrit ce mouvement, alors que les autres mouvements sont plus tendres, plus passionnés. Dans ce mouvement-là, il y a quelque chose de très presque pas, oui, un peu narcissique. Je dirais, oui.
Et puis un peu après, il y a donc la voix qui apparaît, la voix de Xander Ipsich. Et ici, sur cet enregistrement, sur les troisième et quatrième mouvements, vous qui êtes tout le temps, toute l'année à quatre, quand une voix vient vous rejoindre, qu'est-ce qui se passe? Ça vous a déstabilisé? C'est la première fois
que... Ça nous fait beaucoup de bien, Alexandre, effectivement, d'avoir une cinquième personne toujours, justement, ça apporte un peu du vent frais, et ça fait beaucoup de bien dans quoi tu racontes, que ce soit sur du chant ou en autre instrumentiste. Et justement, on a eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Enza, et ça a été super, on s'est super bien entendu. Pareil, au début, elle a eu un tout petit peu de mal avec Schoenberg, dans le sens qu'elle comprenait pas trop non plus, mais vraiment à cinq, justement, on a travaillé à fond dans les détails, justement, d'essayer de comprendre ce langage, et à la fin, justement, qu'on l'a vu transformer Enza au fur et à mesure des répètes, aux premières répètes, puis la troisième, quatrième répète, elle a complètement changé d'avis et sa vision par rapport à cette musique, donc, je pense qu'on était sur la bonne voie.
Il faut dire aussi que les deux mouvements avec chant qui finissent ce deuxième quatuor de Schoenberg sont vraiment les plus belles pages. Enfin, c'est d'une beauté absolue. Et même nous, ça fait en concert, ça fait partie des choses les plus marquantes qu'on ait jouées. Ces troisième et quatrième mouvements. À la fin d'une prestation du deuxième quatuor de Schoenberg, on est dans un état. Vraiment très intense et très profond. C'est une musique vraiment sublime qui nous touche de manière très profonde.
Avec Elsa Dreisich, donc sur ce deuxième quatuor d'Arnold Schoenberg, et vous serez avec quelqu'un d'autre, un pianiste, et pas n'importe lequel. Adam Laloum, c'est samedi au festival d'ouverture de ce mur en Auxois, Schubert et Franck au programme. Je donne quelques dates d'ailleurs, comme ça ce sera fait. On vous retrouve également chez Marc Minkowski, le festival Ré majeur sur l'île de Ré le 1er novembre, le 14 novembre à Poitiers, et à Arles au Méjean le 24 novembre pour ces prochaines semaines. 2013-2019, le quatuor Arod à 6 ans, ça a été facile en 6 ans de s'imposer sur la scène française, puis européenne, puis notamment nord-américaine. Alors il y a eu quelques moments forts, il y a le concours à RD, à Munich, je pense que c'est un moment clé, Alexandre.
Bien sûr, après, vous savez, quand on est en train de faire du quatuor, on n'est pas dans une démarche de s'imposer ou de quoi que ce soit, on essaie juste de jouer le mieux possible, et on n'a pas vraiment de prise sur ce fait. En fait, nous, notre simple job, c'est de jouer le mieux possible. Après, c'est tout ce qu'il y a derrière, les agents, les maisons de disques, tout ça, qui est une grosse machine qui se met en marche, et presque on se sent un peu dissocié de tout ce qui est la machine d'une, entre guillemets, une carrière, parce qu'on peut déjà parler de carrière quand on est si jeune. Mais en tout cas, bien sûr que c'est quelque chose qu'on souhaitait, pouvoir jouer dans des belles salles, rencontrer le public, tout ça. Mais on n'est toujours pas dans une démarche de vouloir s'imposer, comme vous dites. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de faire la musique le mieux possible, quoi.
Il y a énormément.
C'est déjà une grosse responsabilité.
Il y a beaucoup de jeunes quatuors français, très brillants, qui sont nés ces dernières années. Et puis, depuis quand même un moment, il y a vraiment une spécificité française du quatuor. Entre vous, entre quatuors, vous vous regardez en chien de faïence, ou il y a une émulation? C'est quoi, franchement, Alexandre?
Pas vraiment, justement. J'aurais plutôt dit justement qu'on essaie vraiment de s'entraider en fait entre jeunes quatuors, parce que en fait finalement la plupart des jeunes quatuors, surtout de notre génération, on est tous de même âge, on était tous au conservatoire ensemble. Donc, en fait finalement on était vraiment tous potes à la base. Donc justement le fait de faire
on
du
peut
quatuor,
être à l'école ensemble et se détester
aussi. Mais pour la plupart c'était vraiment des copains. Donc notamment là dernièrement on a suivi un tout petit peu le concours Karl Linsen qu'on a gagné il y a 3 ans, et on était très heureux justement d'avoir nos amis quatuor Edmir, qui est un jeune quatuor très talentueux aussi, qui a décroché un 3e prix. Donc
et d'ensemble Dorado aussi vraiment... dont on parlait tout à l'heure ensemble.
Exactement.
De musique avant.
Et on était très fiers justement d'avoir un autre quatuor français qui a gagné un concours qui a gagné quelques années auparavant. Donc je pense que
et puis c'est quelque chose qui c'est vraiment tire chacun vers le haut. On est comme disait Alexandre, enfin moi par exemple dans les 5 quatuors français de notre génération où on se côtoie beaucoup, on était 3 à être dans la même classe de violoncelle. Donc enfin on se connaît depuis des années maintenant, et vraiment il y a une espèce d'écosystème de quatuors en France qui fait qu'on se tire tous vers le haut, on s'entraide, et c'est comme vous disiez, c'est ça qui fait une spécificité française, c'est d'avoir ce savoir-faire du quatuor à cordes qui a été transmis depuis moult années.
Webern, Schönberg, Zemlinski sur votre 2e disque, l'album Mathilde, le premier, c'était Mendelssohn. Scherzo, quatrième quatuor à cordes en mi mineur, opus 44, numéro 2 de Félix Mendelssohn. C'était le premier disque du quatuor à Rhodes. Le deuxième vient de sortir, The Matilde Album. Nos invités ce matin, Alexandre Vu, le second violon, Sami Rachid, le violoncelliste de ce quatuor. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce qu'on vous dit, et vous vaut votre sentiment quand on vous entend ici, quand on vous entend dans Schoenberg, dans Webern, dans Zemlinski aussi, que vous avez un son français, pour revenir à la conversation qu'on avait juste avant? Quand vous revenez de San Francisco, là, par exemple, ils vous disent quoi?
Je pense qu'il y a... Ah, ça, c'est dur. Dès le matin, là, des questions profondes. Non, mais bien sûr qu'il y a une spécificité du son français, comme il y a une spécificité du son allemand, du son américain. On avait un...
N'empêche, sur du Mendelssohn, ça nous avait déjà arrivé qu'on nous dise ça, mais j'ai pas trop souvenir sur ce deuxième disque.
C'est vrai. Ouais,
beaucoup moins. Sur Zemlinski et Webern.
Mais je pense que chaque quatuor, quelle que soit sa nationalité, essaie de faire avec ses outils pour parler le mieux possible le langage du... On essaye de jouer comme des Allemands ou des Autrichiens quand on joue cette musique-là, fois selon le compositeur. Mais il y avait un de nos professeurs qui était... on l'a eu une fois en masterclass, c'était Atto Bayerley, l'ex-altiste du quatuor Alban Berg, qui avait fait une conférence où il expliquait justement le lien entre la langue parlée et l'influence de la langue parlée sur le jeu des musiciens. Il faisait notamment cette différence entre les Français qui sont beaucoup avec une voix beaucoup plus monotone, moins articulée, tout ça, on peut un peu parler avec une voix suave, j'exagère évidemment, et le côté plus germanique avec beaucoup plus de consonnes et qui donnait effectivement un résultat aussi beaucoup plus entre guillemets concret de la matière sonore. Mais bon, c'est un cliché, bien évidemment.
Français, européens, internationaux, les musiciens du quatuor à Rhodes. Merci Alexandre Vu, merci Sami Rachid, le quatuor à Rhodes, le nouveau disque de Mathilde Album. On n'a pas entendu Zemlinski, il faut acheter le disque pour l'écouter. C'est
très
un
grande
disque
musique.
Erato, très belle musique. On vous retrouve à Semur en Auxois samedi avec Adam Laloum et puis un petit peu plus tard sur l'île de Ré le 1er novembre. Demain, notre invité sera le romancier et metteur en scène Jonathan Little. À la technique aujourd'hui, Maïwenn le géant, Antoine Giraud, c'est Marion Guillemet, Salomé Coq et Margot Muller qui ont préparé cette émission réalisée par Yacine Bouzard. Et c'est sur ce rêve d'amour de Franz Liszt chanté par Cyril Dubois avec Tristorès au piano que nous nous quittons. C'était donc la réponse à notre jeu, à un rêve d'amour et non pas une nuit d'amour ni un chagrin d'amour. Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste. Eh bien, Liszt sera également programme dans Piste.
C'est dingue.
Non pas avec ce rêve d'amour,
vous
mais
avez déjà
avec
parlé de ce
ces
disque.
Légendes. Du disque de Cyril Dubois, deux
coup
fois,
de cœur,
ça a été un coup de cœur, oui, pour Rodolphe, on l'a même fait gagner. Et moi, le Liszt que je vous propose, c'est celui de Joseph Moog, avec deux légendes.
Ah oui, que vous aimez beaucoup aussi.
C'est un peu...
Je sais que Rodolphe aime beaucoup.
C'est un de nos chouchous.
On ne peut rien vous cacher, en fait, c'est tout.
C'est un de nos chouchous, et donc on l'écoutera vers 10h dans En Piste.
Au revoir les chouchous, à demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.